10h30 midi, Yann Fernandez et les experts sur Sud Radio.
On parle de la rumeur ce matin, histoire et fantasme chez Belin. C'est Pascal Froissart qui est maître de conférence à Paris 8 et auteur donc et surtout expert en la matière auprès des entreprises plus régulièrement. Pascal, vous travaillez avec les entreprises, vous conseillez un peu les entreprises dans le domaine professionnel?
Mon goût va tout de même aux théories et donc les entreprises me consultent quelquefois, très rarement, mais surtout pour alors des avis théoriques.
Vous êtes plutôt maître de conférence, hein, plutôt universitaire.
Oui. Je suis dans les nuages, moi.
D'accord. Alors, vous avez parlé de Jean-Noël Capferrer. C'est vrai qu'il est également un expert en la matière des rumeurs dans la communication. Et vous disiez, par rapport à la rumeur sur Isabelle Adjani, qui est dans le bouquin d'ailleurs, très très simplement, avant le démenti, 23% de la population, ça veut dire 3 500 000 personnes, pensaient qu'il y avait donc quelque chose de vrai, hein, dans cette rumeur, en avaient entendu parler et pensaient que c'était vrai. Et après, c'est devenu 27% toujours qui y croyaient, mais sur une masse très importante, puisqu'il y a eu le démenti, donc pratiquement toute la population était au courant. Il y avait plus de 48 millions de Français qui étaient au courant. Et là, c'est devenu 13 millions de personnes qui y croyaient. Donc de 3, on est passé à 13. Ce qui fait que, vous le disiez à l'instant, combattre une rumeur en apportant un démenti peut soulager son esprit, mais par contre, développer cette rumeur.
Voilà, c'est ça. C'est l'effet paradoxal, disons, du démenti. Ceci dit, il ne faut pas en tirer une leçon absolue. Il y a sûrement des cas où le démenti vaut mieux que le silence. Je pense néanmoins que si on devait trouver des recettes, il faudrait se fier beaucoup plus à l'habitude des gens, des stars ou des managers ou de chacun de nous. Il y a des gens qui restent extrêmement muets sur leur vie personnelle et il serait donc très étrange que tout d'un coup ils se mettent à démentir quand ils se pensent atteints victimes d'une rumeur. Mais d'une autre manière, des gens qui parlent tout le temps d'eux-mêmes, que ce soit dans les médias ou autour d'eux, et qui tout d'un coup garderaient le silence sur une rumeur dont ils se sentent victimes, n'auraient pas raison d'être non plus. Il faudrait au contraire qu'ils continuent à parler. Donc je pense que ça dépend beaucoup plus du style de communication que nous avons chacun, qui dépend de nous, de notre personnalité, de nos habitudes, que d'une recette venue de nulle part et venue, de la science. Au nom de la science, il y aurait une recette anti-rumeur ou pro-rumeur qui, en fait, ça n'existe pas. C'est vraiment du cas par cas.
La rumeur, Pascal Froissart, c'est forcément, on en est victime si on est connu. Il faut qu'on ait une dose de notoriété à son niveau, dans son village, dans son département, dans son pays. Il faut qu'on ait quand même une dose de notoriété pour que la rumeur puisse être véhiculée.
Oui, bien sûr, mais vous ne croyez pas qu'on est tous les stars de quelqu'un, que ce soit à l'intérieur d'un groupe d'amis, d'un groupe professionnel, d'une famille, on est toujours l'objet de conversations d'une manière ou d'une autre. Je crois que simplement c'est plus visible lorsqu'on est une star parce que tout simplement on a des traces écrites. Mais dans une famille, je suis bien certain qu'il y a des phénomènes de rumeurs qui se créent avec des réputations précisément. Moi, je parlerais à ce moment-là plutôt de réputations qui sont très dures à l'intérieur d'une famille. On peut dire de quelqu'un que c'est le dernier des derniers, alors que tout simplement ça repose sur des conversations, des malentendus ou des actes et des vérités.
Il y a une ambiguïté quand même, hein, entre la rumeur et la réputation. Vous le disiez tout à l'heure, historiquement, c'était plutôt la rumeur voulait dire réputation au Moyen-Âge, et ça reste encore pour vous quand même, j'ai l'impression que vous allez de l'un à l'autre.
Oui, je n'arrive pas en fait, ou plutôt je m'efforce de ne pas arriver à faire la différence. Les théories sur la rumeur dont on dispose n'expliquent pas en fait les phénomènes de ragots ou de commérage ou de simples, discussions, bavardages à l'intérieur des groupes. Ce qu'on a comme théorie, donc tout à l'heure on en a vaguement évoqué une, qui est donc celle de 1900, qui est une théorie qui est d'une simplicité tout à fait étonnante, qui est celle
Ce sont les Américains au départ, hein, c'est ça?
Alors le premier auteur à faire une théorie, c'est un Allemand,
un
psychologue allemand, tout à fait, inconnu j'allais dire, mais pas tant que ça. Dans le milieu, il est assez connu parce qu'il a beaucoup travaillé sur la psychologie des enfants et et c'est l'un des précurseurs du quotient intellectuel, donc c'est tout à fait un type étrange.
C'est un pédopsychiatre, donc, c'est ça, au départ?
Voilà. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, parce que ça n'existait pas, mais vous avez raison, oui, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Mm-hmm. Et en fait, au détour d'une étude tout à fait étrange sur le... Enfin non, tout à fait officielle, formelle, comment dire, classique, sur la psychologie du témoignage, à l'époque, on découvrait... vous savez qu'au... Enfin, jusque pendant très très longtemps, on a pensé que la réputation des gens, précisément, était un excellent gage de la véracité des choses qu'ils racontaient, et que donc un aristocrate, le témoignage d'un aristocrate valait mille fois mieux que le témoignage d'un ouvrier. Et puis on s'est rendu compte donc, que justement au début du XXe siècle, que eh bien non, le témoignage ne dépendait pas de la réputation ou de la qualité des témoins, mais dépendait de facteurs extérieurs tels que l'âge, le sexe, le mode d'attention au moment de l'événement, des choses comme ça. Et donc dans le cadre d'une étude sur la psychologie du témoignage, ce type-là, ce psychologue qui s'appelle William Stern, a fait une espèce de parenthèse qu'il a appelée la rumeur, l'étude de la rumeur, et dans laquelle il a fait la première expérimentation en laboratoire de la rumeur. C'est une expérimentation toute simple à comprendre, puisqu'on l'a faite quasiment tous en colonie de vacances ou je ne sais où. C'est le jeu du téléphone, c'est-à-dire on se met tous en rang les uns derrière les autres et on se passe un message de bouche à oreille.
Oui, d'accord.
De A à Z.
C'est-à-dire vous êtes en file indienne, vous, Pascal, vous allez être le maître de conférence, vous êtes devant moi, je suis le premier de la file indienne. Vous me dites quelque chose alors que je suis le seul à pouvoir entendre, c'est ça?
Voilà.
Hein, donc vous me racontez quelque chose.
Une histoire de préférence, ça peut, dans les expériences qu'on fait en laboratoire, ça peut aller jusqu'au CV de l'expérimentateur.
Ouais. Et alors après, donc moi je vous écoute, hop, je me retourne derrière, il y a donc la deuxième personne de la file indienne à qui je raconte ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu, et toujours pour que simplement cette personne et seulement cette personne m'entende et me comprenne.
Voilà.
On est bien d'accord.
Exactement.
Et de fil en aiguille, on met plusieurs personnes à la queue leu-leu. Et qu'est-ce qui arrive au bout? Eh bien, réponse après cette pause publicitaire, à faire comme sur TF1 et qui veut gagner des millions. Ah ah, c'est suspense. À tout de suite.